Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la Sainte Sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité en ce mardi 21 juin 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le CGRI met en garde US Israël contre les agissements aériens. L'exercice à grande échelle Volonté des Véridiques a débuté ce lundi matin 20 juin dans la bande de Gaza avec la participation de plusieurs organisations militaires affiliées au Saraya Al-Rots et la deuxième réunion tripartite sur le projet du gazoduc transsaharien TSGP s'est soldée par un accord dans le but de relancer ce méga chantier d'une longueur de plus de 4000 km. C'était les principaux titres. En voici le journal. Un commandant militaire iranien a affirmé que les mesures militaires conjointes prises par Israël en coopération avec un certain nombre de pays arabes de la région sont dues au désespoir de ce régime. Le porte-parole des forces armées iraniennes, le général Abolfaz Shekarchi, a fait cette remarque ce lundi 20 juin après que le ministre israélien des Affaires militaires, Benny Gantz, a affirmé que le régime était en train de construire une alliance régionale de défense aérienne parrainée par les États-Unis en coopération avec certains États arabes de la région pour déjouer ce qu'il a appelé les attaques de l'Iran. La raison principale derrière cette mesure est tout simplement le désespoir du régime sioniste, a déclaré le général Shekarchi. Concernant le vol des bombardiers B-52 américains et des chasseurs israéliens au-dessus du golfe Persique, le général Shekarchi a affirmé qu'il s'agit là de pur spectacle. Les responsables criminels sionistes ont reconnu le rythme accéléré de l'effondrement de leur régime sanguinaire, a-t-il rappelé, ajoutant. Quant aux Américains, ils savent bien que toute petite erreur de calcul stratégique leur fera courir le risque de se voir gifler encore plus dur qu'avant. De même, le commandant de la force de la DSA de l'armée de la République islamique d'Iran, le général Sabahi Fard, a décrit comme suit de quoi sont capables aujourd'hui les défenses anti-aériennes du pays. Les sites de radar et de contrôle de l'artillerie anti-aérienne de l'Iran sont dans un état permanent de renouvellement et d'optimisation en utilisant des systèmes avancés de fabrication nationale. Même des zones au-delà des frontières nationales n'échappent pas aujourd'hui au contrôle de notre artillerie anti-aérienne qui observe tous les agissements des puissances extra-régionales. L'autorité de la force de la DSA repose sur le talent des experts et techniciens iraniens et sur leur capacité de produire des équipements sophistiqués, sans oublier le pouvoir de la foi et des convictions des combattants de ce secteur, a-t-il aussi ajouté. Et pour finir, le général Sabahi Fard a affirmé que les ennemis sont familiers avec la puissance de l'Iran en termes de DSA, ce qui leur fait peur d'ailleurs. Les ennemis savent que nous sommes vigilants et déterminés à riposter avec fermeté à leur moindre erreur, a ajouté le commandant de la force de la DESA de l'armée de la République islamique d'Iran, le général Sabeï Fard. L'exercice à grande échelle, volonté des véridiques, a débuté ce lundi matin 20 juin dans la bande de Gaza avec la participation de plusieurs organisations militaires affiliées au Sharia al-Rot, la branche militaire du djihad islamique de la Palestine. Plus tôt, Abu Hamza, porte-parole des brigades de Sharia al-Rot, avait annoncé que diverses opérations sur le terrain seraient simulées pendant l'exercice. Il a déclaré que divers équipements militaires, y compris des unités de missiles et d'artillerie, seraient présentés lors de cet exercice, ajoutant que cette initiative visait à accroître la préparation au combat des combattants palestiniens et à insister sur la poursuite de notre long chemin vers la libération et le retour des réfugiés. Abu Hamza a souligné que l'exercice se déroulerait avec l'usage de divers équipements militaires, dont les plus importantes sont les unités de missiles et d'artillerie. Dans ce cadre, Tahrir Salmi, porte-parole du mouvement du djihad islamique en Palestine, a déclaré que la région était confrontée à des développements majeurs avec la présence de l'unité de l'Axe de la Résistance. Nous parlons de grands développements dans la région en raison de la résistance du peuple palestinien, a-t-il précisé, ajoutant. Sans aucun doute, ces évolutions ne se situent pas seulement au niveau de la Palestine. Avec l'unité de la résistance et l'ouverture de tous les fronts en cas de poursuite des crimes systématiques de l'ennemi, il se situe également au niveau régional et international. Et pour conclure, il a fait allusion au dévoilement par les brigades de Sharia al-Rot du drone Jenin et au ciblage d'une jeep israélienne avec ce drone, le qualifiant porteur d'un message important pour l'ennemi sioniste. La résistance est prête à vaincre l'occupant et à restaurer tous les droits du peuple palestinien. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a exprimé son profond regret et la profonde sympathie de la République islamique d'Iran pour le meurtre d'un certain nombre d'Éthiopiens lors d'une attaque par des groupes d'insurgés armés dans la région d'Urmiya. Saïd Khatibzadeh, tout en condamnant fermement l'attaque terroriste, a exprimé ses condoléances au gouvernement et au peuple éthiopien ainsi qu'aux survivants de l'attaque terroriste. Au moins 260 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées lors d'une attaque par des hommes armés dans la région d'Urmiya, dans l'ouest de l'Éthiopie. Ce massacre marque l'un des jours les plus sanglants en Éthiopie. Les habitants qui ont survécu au massacre ont rapporté que les assaillants avaient massacré des personnes et enterré leurs corps dans des fosses communes. Les ministres nigériens, algériens et nigérians de l'énergie ont tenu ce lundi 20 juin à Abuja une deuxième réunion tripartite sur le projet du gazoduc transsaharien, TSGP. La rencontre s'est soldée, selon un communiqué du ministère algérien de l'énergie et des mines, par un accord dans le but de relancer ce méga chantier d'une longueur de plus de 4000 km. Celui-ci a porté sur la mise en place d'un groupe de travail pour actualiser l'étude de faisabilité de ce projet. Dans son allocution prononcée à cette occasion, Mohamed Arkab a confirmé l'approbation des décisions de la précédente réunion tenue à Niamey, au Niger, le 16 février 2022, qui avait défini une feuille de route pour réaliser ce chantier. Pour le ministre algérien, ce gazoduc est un exemple de la volonté de ces trois pays de mettre en place une infrastructure régionale d'envergure internationale. Il est également considéré comme une nouvelle source d'approvisionnement face à une demande toujours croissante compte tenu de la place que le gaz naturel occupera dans le mix énergétique à l'avenir. Mohamed Arkab a présenté également les avantages les plus importants de la réalisation de ce projet. En plus du développement économique et social que ce projet apportera à la population locale et aux différentes zones de transit, il donnera également la possibilité de relier d'autres pays comme le Mali et le Tchad et mettra également le renforcement des infrastructures existantes et nouvelles pour le transport par pipeline qui relie les champs de l'extrême sud-ouest de l'Algérie, a expliqué le ministre algérien de l'énergie et des mines. Des dirigeants africains ont demandé lundi 20 juin une cessation immédiate des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, où les combats ont entraîné des pertes de vies humaines et de biens matériels ainsi que des déplacements massifs. Les dirigeants du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, du Soudan du Sud, de la RDC, du Burundi et de la Tanzanie ont appelé les groupes armés à se retirer des positions récemment conquises. Dans le même temps, le processus politique doit être intensifié par toutes les parties afin de permettre aux citoyens de la RDC de se sentir en sécurité et de pouvoir reprendre et poursuivre leurs activités sociales, culturelles et économiques, ont indiqué les dirigeants dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion d'une journée à Nairobi, capitale kényane. Les dirigeants qui se sont réunis pour le troisième conclave des chefs d'État de la Communauté d'Afrique de l'Est, CAE, sur le dialogue intercongolais dans le cadre du processus de Nairobi, ont demandé à toutes les parties de faire cesser et de décourager tout langage insultant, discours de haine, menaces de génocide ou autres discours politiquement incitants. Les dirigeants se sont engagés à contribuer à la réconciliation et à une paix durable et se sont déclarés déterminés à trouver une solution rapide et durable au conflit en RDC, en particulier dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ces nouveaux efforts surviennent dans un contexte de conflit diplomatique entre le Rwanda et la RDC, Kinshasa accusant notamment Kigali de soutenir les rebelles du mouvement du 23 mars M23, responsables des combats qui ont récemment forcé des milliers de personnes à fuir vers l'Ouganda. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Et si un Iran nucléaire était le moins mauvais choix pour Biden? Washington craint une bombe nucléaire iranienne imminente. L'accord sur le nucléaire, s'il passe ou s'il casse, entraînera de toute façon une crise. Que peut faire Biden, pour qui le pétrole iranien est vital et de qui ce même pétrole s'éloigne à une vitesse grande V depuis que la Russie et son bloc centre-asiatique se sont mis à s'approcher follement de Téhéran? S'adapter à un Iran nucléaire, n'est-ce pas le moins mauvais choix? C'est la question sur quoi revient Al Jazeera. Washington se trouve dans une situation compliquée vis-à-vis de l'Iran. Avant d'entrer à la Maison-Blanche, le président américain Joe Biden avait promis qu'il retournerait aussitôt et via des négociations à l'accord nucléaire avec l'Iran. Or, durant un an et demi depuis le début de son mandat, les États-Unis et l'Iran n'ont obtenu aucun succès pour un retour à l'accord dont Donald Trump était sorti en 2018. Pendant ce temps, l'Iran a continué de développer son programme nucléaire en augmentant le niveau de son enrichissement, tout en suspendant certaines de ses coopérations avec la IOA. Les États-Unis, quant à eux, ont imposé davantage de sanctions à l'Iran. Il y a quelques jours, Ned Price, le porte-parole officiel du département d'État américain, avait affirmé que Washington, avec ses partenaires au Moyen-Orient, cherchait à entreprendre des mesures appropriées face à l'aggravation des tensions que l'Iran provoque dans la région. Il avait aussi prétendu que l'Iran pourrait s'acquérir dans quelques semaines de la bombe nucléaire. C'est la raison pour laquelle nous demandons le retour bilatéral à l'accord nucléaire. Tout cela témoigne de la situation compliquée dans laquelle Washington s'est engagé, et cette situation aura, avec ou sans un retour à l'accord nucléaire avec l'Iran, de vastes impacts pour les alliés de ce pays, d'Israël jusqu'au pays du Golfe Persique. Giorgio Caviero, du Centre d'analyse des États du Golfe Persique, estime que si l'accord nucléaire est relancé et revivifié, ces pays s'inquiéteront de plus en plus de l'accès de l'Iran aux ressources financières, car il pourrait ainsi fournir l'argent nécessaire aux groupes qu'il soutient dans toute la région arabe, et cela suscitera l'inquiétude d'Israël et certains pays du Conseil de coopération du Golfe Persique. Et si les actuelles négociations à Vienne boutent à l'impasse et échouent, de sérieux dangers s'annonceraient. L'Iran ne sera plus contrôlable, ce qui sera source de grandes menaces pour les pays de la région, note Giorgio Caffiero. Et Al Jazeera de poursuivre. Parvenir à un accord avec l'Iran s'avère être la voie la plus rapide pour arrêter les menaces nucléaires et contrôler les cours de brut dans le monde, ce qui s'est transformé en fait en le plus grand défi politique pour Biden. Sans un accord nucléaire, l'Iran augmenterait ses capacités dans le domaine des armements atomiques. Et qui plus est, si l'administration Biden n'arrive pas à briser le record actuel des prix de pétrole, il faut solliciter les dirigeants d'Abu Dhabi, de Riyad, de Koweït et de Bagdad pour qu'ils augmentent leurs exportations de pétrole sur les marchés du monde. Puis il y a Israël. Ces dernières années, Israël a opté pour la politique d'attaque cybernétique, d'assassinat ciblé et de sabotage, et tout cela dans le but de ralentir le programme nucléaire de l'Iran. Mais Téhéran lui a répondu par des attaques cybernétiques tout en accélérant ses activités nucléaires. Selon l'Institut de sécurité d'Israël, au cas où les négociations échouent, l'Iran poursuivra ses efforts pour parvenir à l'arme nucléaire, ce qui pourrait déclencher une guerre élargie dans la région ou au moins intensifier les conflits au Liban, en Syrie et en Irak, autrement dit, conduire à une escalade dans toute la région. L'option militaire sera la dernière option. Si les rapports des services de renseignement disent que l'Iran cherchait à se procurer des ogives nucléaires, personne, ni à Washington ni à Tel Aviv, ne pourrait le négliger. C'est la raison pour laquelle les pays tels que les Émirats, qui avaient agi prudemment envers le plan global d'action conjoint et même accueilli la sortie des États-Unis de l'accord de 2015, s'emploient à présent à embellir leurs relations avec Téhéran. Dalia Dasakaye, professeure à l'Université de Californie à Los Angeles, estime que cette fois-ci, il sera plus difficile de contrôler l'escalade des tensions entre Israël et l'Iran. Israël a suspendu provisoirement ses actes de provocation après l'accord nucléaire, mais les a repris en 2018, après le retrait de Trump de cet accord. Et si Israël arrive à cette conclusion qu'un nouvel accord nucléaire ne pourra pas endiguer le programme nucléaire de l'Iran, il poursuivra ses attaques, même si l'Iran respecte les clauses du nouvel accord. Il y a en plus un autre défi sur fond d'une revivification éventuelle de l'accord nucléaire. Si la future administration US retire, elle aussi, de l'accord nucléaire, est-ce que l'Iran respectera encore son engagement pour ne pas essayer de se doter de l'arme nucléaire ?
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, les élections de l'Assemblée nationale ont dessiné un nouveau paysage politique français. En effet, Emmanuel Macron a perdu la majorité, un désaveu sévère et bien sûr un revers dur et sans précédent. Nous allons également parler de la politique extérieure de la France et particulièrement celle de l'Ukraine et de la Russie. Donc, depuis 4 mois, Emmanuel Macron a exercé une politique de 2 poids 2 mesures vis-à-vis de l'Ukraine, mais également vis-à-vis de la Russie, en disant qu'il ne fallait pas humilier la Russie, ce qui avait suscité la colère du président ukrainien. La France est mal gouvernée. Avec cette nouvelle composition de l'Assemblée nationale, ça sera encore pire. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Bernard Cornu, écrivain et géopolitologue depuis Vaucluse. M. Cornu, bonjour.
Bonjour, et aujourd'hui, je suis à Paris.
D'accord, c'est très bien, et merci d'être avec nous. Un grand bonjour à M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Nous allons joindre M. Luc Michel tout à l'heure. Alors, je vais m'adresser à M. Bernard Cornu, qui est avec nous depuis Paris. M. Cornu, nous parlons bien sûr de cet échec d'Emmanuel Macron aux élections de l'Assemblée nationale. Donc, c'est un revers dur et sans précédent, n'est-ce pas ?
Disons, c'est difficile et c'est effectivement un échec par rapport à ce qui était attendu, par rapport à la session antérieure, d'une part son élection présidentielle et aussi le fait qu'aux précédentes législatives, il avait une majorité absolue. Mais il faut remarquer quand même que beaucoup de gens au deuxième tour ont voté contre Macron quand il y avait seulement des duels entre deux partis, donc soit le parti du Front National, quand les gens étaient membres du Rassemblement National, ils ont voté contre Macron, c'est-à-dire quand il y avait un duel, ils votaient pour la NUPES, alors que ce n'est pas leur camp habituel. Et aussi, beaucoup de Républicains, du parti des Républicains, quand il y avait un duel auquel ils ne participent pas, ils ont voté contre Macron, donc ils ont voté Rassemblement National. Ce sont les premières études qui ont été faites cette nuit et qui ont permis de dire cela. Donc, c'est des votes de rejet parce qu'effectivement, le pouvoir s'use, le pouvoir use, et beaucoup de gens, faute d'avoir la possibilité de voter positivement pour quelqu'un de leur camp, ils votent, ils expriment leur rejet du pouvoir actuel. Donc, c'est pour ça que tout l'ensemble, la coalition Ensemble, qui réunit trois partis, même quatre partis, a quand même beaucoup perdu, mais elle reste quand même l'ensemble qui domine l'Assemblée avec 42% et demi du nombre des députés. Donc c'est quand même, et le parti lui-même, le parti de Macron, LREM, qui va s'appeler maintenant Renaissance, domine aussi en ayant 70 députés, c'est-à-dire environ un petit tiers des députés à l'Assemblée. Mais n'ayant plus la majorité absolue, il sera obligé de faire des compromis pour, au cas par cas, avec soit les Républicains à droite du parti de Macron, soit avec la gauche, l'ensemble NUPES, conduit par M. Mélenchon, qui réunit les socialistes, le parti de Mélenchon, la France insoumise, et les Verts, et le Parti communiste français. Donc, la France, effectivement, depuis quelques années, n'avait pas l'habitude des compromis à l'Assemblée, des coalitions, pour des politiques, pour des projets politiques, comme ça se passe par exemple en Allemagne, et il faudra qu'ils s'y habituent, qu'il y ait du dialogue à l'Assemblée pour arriver à faire avancer. Sinon, effectivement, on aurait un blocage, et si ça dure, on risquerait une dissolution de l'Assemblée nationale pour refaire des élections. Mais espérons que des compromis soient trouvés, comme en Allemagne, et que les textes principaux puissent être votés en faisant un compromis sur certains aspects de détail des politiques proposées.
Bernard Cornu, Emmanuel Macron n'a pas l'habitude de partager le gâteau, enfin depuis qu'il est au pouvoir. Alors, ça sera une tâche d'autant plus difficile pour lui, parce qu'avec cette nouvelle composition de l'Assemblée nationale, étant donné qu'il n'a pas la majorité, déjà qu'il avait du mal à gouverner le pays, mais cette fois, ça sera encore pire. Quel est votre avis ?
Mais c'est vrai qu'il n'a pas l'habitude de négocier des compromis parce qu'il avait eu la chance, étant jeune président, brillant, avec un parti nouveau et une certaine lassitude des partis politiques traditionnels, de droite et gauche, aux précédentes élections présidentielles et ensuite législatives, il avait obtenu une majorité absolue. Donc en fait, tous les textes que son gouvernement proposait, il passait sans difficulté. Il ne subissait seulement les critiques des autres partis qui multipliaient les amendements pour faire un peu de barrage, se faire connaître. Mais là, il devra faire des compromis. Il apprendra, je pense. Et d'ailleurs, je note que, même si je n'ai pas voté pour lui, je note qu'il aime bien affronter, beaucoup plus que d'autres présidents, affronter les gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Dans ses visites public, dans les campagnes françaises, dans les villes françaises, il aimait beaucoup discuter avec les gens. Il s'est parfois même insulté. Mais il a, je pense, du courage pour affronter les opinions contraires. Du coup, maintenant, il ne pourra plus faire passer ses textes avec la majorité absolue. Il devra discuter avec les différents partis politiques, avec différents courants politiques qui sont présents aussi à l'Assemblée. Donc, ça sera plus difficile, mais je ne pense pas qu'il soit impossible pour lui de dialoguer et de trouver les compromis. Il n'en a pas l'habitude, mais je pense qu'il aime ceci.
Oui, mais c'est vrai qu'il aime confronter l'opposition, mais est-ce que cela va avancer les choses ?
Ah ben ça, on verra. Je pense que, bon, il est jeune, talentueux, il a beaucoup de mémoire, beaucoup de capacité de répartie, et Et donc, je pense que, oui, je cite, c'est, comme monsieur, mon collègue à Bruxelles n'est pas disponible, je peux raconter une anecdote. Après les élections présidentielles précédentes, il y a 5 ans. Il se promenait avec sa femme dans un jardin très connu dans le centre de Paris. Et tout d'un coup, quelqu'un l'apostrophe, vient vers lui et dit « Oui, voilà, voilà, je suis le peuple, c'est nous le patron, etc. » Et Monsieur Macron, président, a répondu très calmement « Mais je suis d'accord avec vous, monsieur, mais aujourd'hui, c'est dimanche, les patrons n'ont plus autorité. »
Voilà. Ah, d'accord.
Donc, vous savez, je pense qu'il aime bien confronter effectivement les idées et je pense qu'il sera capable d'apprendre. Et je le souhaite d'ailleurs en matière de politique étrangère, parce que je constate quand même qu'avec le Front National et même la NUPES, le Parti de la France Insoumise, il y a quand même certaines convergences vis-à-vis de la Russie. Je crois que ces trois partis disent que la France, l'Europe ne doit pas, s'affronter la Russie. Elle doit se réconcilier avec elle, trouver les bons compromis, et elle doit plutôt se séparer de la tutelle des États-Unis d'Amérique. Donc sur ces points-là, je pense qu'il y aura des compromis possibles pour avancer, notamment dans la médiation entre la Russie et l'Ukraine, même si elle est très difficile. Je ne pense pas qu'elle soit arrêtée et je ne pense pas que Macron abandonne ses efforts.
Oui. Luc Michel, je suis, ou le monde entier est curieux de savoir comment la France sera gouvernée dans les mois à venir, enfin peut-être dans les années à venir, un pays qui est déjà mal gouverné, avec cette nouvelle composition de l'Assemblée nationale, ça sera encore plus difficile. Que pensez-vous ?
La France est devant un échec absolu. C'est un échec du régime Macron, mais c'est aussi un échec du système franco-occidental. Tout d'abord, il faut parler des élections. Les élections étaient perdues par Macron. Le Parlement français est ingouvernable. Macron, qui depuis 4 ans voulait éliminer la droite, il en a fait l'arbitre du nouveau Parlement. Il veut éliminer la gauche, celle-ci a ressurgi avec Mélenchon. Et il voulait tabler sur la lutte contre l'extrême droite pour gagner les élections. Et il a aidé à rétablir le néofascisme de Le Pen. Mais ce n'est pas seulement cela, ça intervient au moment où il y a un échec géopolitique de la France. La France, en fait, elle mène une politique d'illusion et une politique de double jeu. Les Français, ils appellent ça la politique du en même temps, mais moi, j'utilise le terme de putasserie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Macron fait les sourires à Téhéran, mais en même temps, il est aligné sur la politique américaine et israélienne, et il mène avec les Américains des raids géopolitiques et financiers pour prendre le contrôle du Liban et chasser le Hezbollah du pouvoir. C'est la même chose en Ukraine. En Ukraine, il dit qu'il faut ménager la Russie, mais en même temps, il va à Kiev avec le premier ministre allemand et le premier ministre italien, et il va dire que c'est la victoire de l'Ukraine et qu'il faut vaincre la Russie. La Russie a répondu par la voix de Dmitri Medvedev, le tout-puissant vice-président du Conseil de sécurité nationale, qui est un ancien libéral, mais maintenant c'est un nationaliste russe radical. Tout d'abord, Medvedev a exprimé tout le mépris que l'on a à Moscou pour les dirigeants de l'Union européenne. Il a dit que Macron était un bouffeur de grenouilles, je le cite, Raxi un bouffeur de spaghettis, et le chancelier allemand un bouffeur de saucisses. Mais Medvedev a posé la vraie question. Il a dit que 2 questions se posaient en fait. Tout d'abord, c'est de savoir s'il y aura encore une Ukraine dans 10 ou 15 ans pour rejoindre l'Union européenne. Mais surtout que la question centrale, c'était de savoir s'il y aura encore une Union européenne dans 15 ans. La France, elle a perdu l'amitié de la Russie, comme elle a perdu l'amitié de la Syrie, elle a perdu l'amitié des Libanais, elle a perdu l'amitié des Français, des Africains. Vous savez qu'une grande partie de mon parcours se fait en Afrique. La France de Macron fait que la France est promue. Plus seulement les réseaux de la France-Afrique, mais le français en tant qu'individu. Je suis sur des plateaux de télévision au Cameroun, en Centrafrique ou au Mali, dans lequel on exprime des menaces physiques contre les Français. Voilà ce qu'est le résultat. Quant à savoir sur la Russie, ce matin, le ministère des Affaires étrangères russe a demandé l'expulsion dans les 24 heures de l'attaché culturel français à Moscou. Celui-ci est accusé d'avoir contribué à financer des organisations anti-poutiniennes d'opposition, mais surtout, lorsque Moscou chasse l'attaché culturel, c'est la marque qu'un pays est devenu l'ennemi de la Russie. C'est tout ce que Macron a gagné. Mais la véritable question, ce n'est pas la question du Parlement. Ça, ce sont les Français qui s'agitent là-dessus, les journalistes français. Et c'est les systèmes politiques franco-occidentaux. Depuis 4 élections, depuis 2017, plus de 5 Français sur 10 ne vont pas voter. Ces gens, évidemment, n'ont rien à faire avec le système français. Ils refusent celui-ci. C'est la négation du système français. C'est particulièrement vrai par les jeunes, parce que 4 jeunes sur 5 de moins de 25 ans n'est pas allé voter. C'est cela l'échec de Macron. Il a précipité cette affaire, évidemment, avec son arrogance. Macron, en fait, a cru qu'il allait manipuler tout le monde, parce qu'il pense qu'il est plus malin que tout le monde. Il est ce qu'on appelle en français un Machiavel au petit pied, quelqu'un qui a cru qu'il jouait les Machiavel et qui, en réalité, a creusé sa propre tombe. Il y a un livre qui est sorti en début de cette année qui s'appelle « Le déclassement français » qui explique comment la France est tombée géopolitiquement en décadence, en chute, en déchéance, en Proche-Orient, en Australie dans le Pacifique, mais également en Afrique. C'est cela la réalité. La France du général de Gaulle qui prétend encore exister politiquement, aujourd'hui, elle a été liquidée par ses successeurs, en particulier François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, en particulier ces deux derniers, et le rap d'Anne Le Drian, qui est le chef des réseaux pro-américains en France. Il n'y a plus rien à attendre de la France, sauf qu'elle s'efface de la politique mondiale. Elle a de mal comme ça.
Mais il n'était pas tout à fait d'accord avec vous concernant la façon dont le pays est gouverné. Il est plutôt pessimiste à l'égard des mois à venir et la façon dont le pays sera gouverné avec cette nouvelle composition de l'Assemblée nationale, M. Bernard Cornu.
Disons, il est pessimiste et il peut avoir été pessimiste. Moi, je suis plutôt, non pas optimiste, mais positif. C'est-à-dire que, d'une part, je ne peux pas prédire tout l'avenir. Et je pense que dans certains domaines, dans la politique étrangère, il peut y avoir des convergences nouvelles entre le groupement Ensemble, donc tous ceux qui sont autour de Macron, et la gauche française, notamment le Parti communiste et la France insoumise, qui sont depuis très longtemps, notamment par exemple pour une reconnaissance officielle d'un État de Palestine par la France, et qui veulent que les autres États européens s'y engagent aussi. Et ceci, c'est conformément à des très anciennes déclarations dites de Venise, de 1974. Donc, ces partis de gauche veulent que la France pousse, soit beaucoup plus proactive dans ce domaine-là. Et je pense aussi que ces partis que j'ai nommés sont aussi fermement attachés à ce que l'accord avec l'Iran sur le nucléaire civil soit de nouveau rétabli complètement et que les sanctions soient levées, les sanctions illégales soient levées le plus possible. Ces partis de gauche sont foncièrement contre les sanctions qui touchent toujours les peuples. Et si moi je respecte M. Mélenchon pour sa politique, c'est parce qu'effectivement, il y a plus de 30 ans, il était un des rares hommes politiques en France à s'opposer complètement, fermement, publiquement à l'embargo qui était imposé à l'Irak suite à son invasion du Koweït. Donc ces partis de gauche ont des positions quand même très claires sur toutes les sanctions illégales qui touchent surtout les peuples et qui sont un abus de pouvoir des puissances occidentales, des puissances impérialistes, et notamment évidemment les États-Unis. Donc je pense que cet échec de Macron servira quand même à faire avancer certains points de politique étrangère en France.
Même s'il le veuille ou pas, le président Emmanuel Macron, de s'opposer à ces politiques-là, vous dites que le parti de Mélenchon à l'Assemblée nationale pourrait aider dans la politique extérieure de la France. Est-ce que vous nous entendez, M. Bernard Cornu?
et sur la oui. Palestine, c'est sûr que le président Macron n'a pas été très motivé pour faire bouger les choses. Je pense que sur la politique étrangère, il sera un peu plus poussé à ça pour avancer. Et donc, faire une action disons, française et européenne pour rendre justice aux Palestiniens.
Oui, et bien, oui. D'autres dossiers comme celui de la crise ukrainienne, par exemple, avec cette nouvelle composition de l'Assemblée nationale, est-ce que ça va changer les choses? Est-ce que la médiation française pourrait aider à la fin du conflit, par exemple?
Bien, comme je l'ai dit, le parti de M. Mélenchon, la France insoumise, le Parti communiste aussi, sont tout à fait contre les sanctions imposées à la Russie. Ils sont contre la guerre, ils le reprochent à M. Poutine d'avoir pris cette guerre, mais ils reconnaissent aussi les arguments avancés par la Russie, c'est-à-dire la non-mise en application ferme des accords de Minsk pour un cessez-le-feu dans le Donbass, pour faire cesser les bombardements sur les populations civiles. Donc eux reconnaissent la validité de ces arguments. Expliquer la réaction de la Russie n'est pas l'excuser, il la critique aussi, mais il donne priorité à la diplomatie, de même que M. Macron a essayé de le faire, avec des déclarations peut-être pas très, un peu malheureuses, de dire ne pas humilier. Le problème n'est pas de humilier la Russie, le problème est de la convaincre d'un cessez-le-feu d'être capable de trouver un compromis, mais aussi il faut en convaincre l'Ukraine après un cessez-le-feu, pour négocier un traité de paix et revenir à une situation validée internationalement.
Bon, Monsieur Luc Michel, est-ce que vous êtes avec nous? Malheureusement pas. Monsieur Luc Michel, est-ce que vous nous entendez? Malheureusement pas. Je vais devoir poser une dernière question à Monsieur Bernard Cornu, qui est avec nous depuis Paris. Alors, Monsieur Cornu, pour conclure un peu, c'est vrai que nous sommes tous curieux de savoir comment le pays sera gouverné. Et la politique extérieure de la France vis-à-vis de différents dossiers comme celui de les sanctions à l'encontre de l'Iran ou bien sûr cette crise ukrainienne, comment vous prévoyez les mois à venir? Est-ce que vous allez rester toujours positif vu la convergence possible de la nouvelle composition de l'Assemblée nationale?
Ben, d'une part, pour l'Europe, le ministre, jeune ministre chargé de la politique européenne, Clément Beaune, a été réélu à Paris, donc il garde son poste. La ministre qui a été nommée après les élections présidentielles, Madame Catherine Colonna, ne se présentait pas aux élections. C'est une femme d'expérience, elle a travaillé avec le président Chirac, et donc elle a, je pense, dans son passé, d'avoir travaillé auprès de Chirac, la volonté d'avoir une politique française active et indépendante des Américains. Le plus possible. Donc, je pense que pour la politique étrangère, avec l'équipe de Mme Colonna et de son ministre délégué pour les affaires européennes, Clément Beaune, qui a réussi les élections, il ne sera pas longtemps député, mais il a été élu député, il sera remplacé par son suppléant, et je pense. Et donc, ils pourront mener la même politique étrangère, mais elle subira une inflexion sous pression des autres partis, et notamment de M. Mélenchon, du Parti communiste, des écologistes des autres partis même. Peut-être pas l'influence du Rassemblement national, je pense, ne sera pas forte sur la politique étrangère, peut-être sur celle de sécurité, de gestion des émigrés qui est très mal faite en France, avec des délais très très longs pour statuer sur le statut de réfugiés politiques quand les immigrants le demandent. Donc il y a des améliorations à faire, mais je pense que les pressions viendront plus du Parti des Républicains, donc de la droite, et aussi de la gauche rassemblée autour de M. Mélenchon et des écologistes.
Bernard Cornu, je rappelle que vous êtes écrivain et géopolitologue, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, M. Cornu.
Et je retourne dans le Vaucluse, dans lequel 4 députés ont été élus pour le Rassemblement national. Mais dans la circonscription où j'habite, c'est un élu de la LRM, donc du parti de M. Macron. Donc je prendrai contact avec lui pour lui diffuser des bonnes idées sur les politiques du Moyen-Orient.
D'accord. Merci à M. Luc Michel, sa participation était courte, mais merci quand même d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui a resté inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. Histoire des mathématiques en Iran, on lit « Fondamentalement, l'histoire des mathématiques est tour à tour appliquée et théorique. Après la période grecque, nous arrivons à la période iranienne. » La période iranienne ne signifie pas qu'il n'y avait pas de mathématiciens à cette époque, mais en général, presque tous étaient iraniens et peut-être un ou deux mathématiciens étaient égyptiens. Les principaux travaux des mathématiciens iraniens sont classés en trois domaines, l'arithmétique, l'algèbre et la trigonométrie. Il serait vraiment difficile de citer tous les grands mathématiciens du 3e et du 4e siècle de l'Égypte, vu leur nombre et parce que chacun d'eux aurait besoin d'un ou plusieurs ouvrages pour être présenté. Nous notons toutefois que tous les mathématiciens que nous nombrons sont iraniens et viennent de différents centres scientifiques de l'Iran. Aboulfat Mahmoud ibn Muhammad Esfahani, grand traducteur et auteur du 4e siècle, il est l'auteur de Conte d'Apollinus, dont la traduction latine est disponible. Abu Jafar Khazen Khorasani, concepteur de nombreux travaux et innovations dans le domaine mathématique, il est arrivé à résoudre l'équation d'Al-Mahani à l'aide des sections coniques. Abul Hassan Kushyar Gilani, le grand mathématicien du 4e siècle qui a laissé plusieurs livres dans le domaine des mathématiques, et Abul Hassan Ali ibn Ahmad Nasavi Khorasani, auteur d'un ouvrage sur l'arithmétique en persan. Plusieurs de ses livres ont été traduits en allemand. Outre Khwarazmi qui vivait au 3e siècle, Al-Kindi est le premier philosophe musulman et mathématicien digne qui a écrit des traités dans presque toutes les branches de cette science. Son disciple Ahmad Sarrarsi est également connu pour ses travaux géographiques et musicaux et ses règles astronomiques. Après lui, Al-Mahani a continué à compléter l'algèbre et dans son traité sur les relations, il a tenté de clarifier la théorie générale et le problème des relations dans le 5e livre des introductions. Les trois fils de Shakir ibn Moussa, Mohammad, Ahmad et Hassan, connus sous le nom des trois frères Banu Moussa, étaient tous des mathématiciens. En plus d'être un excellent physicien, Ahmad a par ailleurs écrit le livre sur la détermination des surfaces des figures plans et sphériques, traduit en latin par Gérard de Crémant. Aboulwafa Bouzjani, le mathématicien iranien, est l'auteur de deux livres qui énoncent clairement ses opinions sur les gens et la vie des gens. Le premier ouvrage est intitulé « Ce qui est nécessaire en arithmétique pour les comptables et les hommes d'affaires » et le deuxième livre est sur l'indispensable aux artisans en fait de construction. Bousjani vivait au IVe siècle et était membre de la Maison de la Sagesse. Son ouvrage dans le domaine de la géométrie sphérique, avec son application à l'astronomie sphérique, est incroyable. Il a découvert la loi des sinus pour la trigonométrie sphérique. Bousjani est célèbre pour avoir traduit les œuvres de Diophante d'Alexandrie, introduit la fonction tangente dans le monde de la trigonométrie et calculé une table de sinus et cosinus pour des distances de 15 degrés. Dans son livre « La révision de l'Almageste » par référence à l'Almageste de Ptolémée, il complète les tables trigonométriques de ses prédécesseurs, notamment sur la tangente, en utilisant des méthodes géométriques comparables à nos formules de trigonométrie. Abou Sahl-Kouhi est l'un des scientifiques qui a porté une attention particulière aux problèmes astronomiques, aux problèmes mathématiques. Il est l'un des plus éminents spécialistes de l'algèbre qui a fait des recherches approfondies sur le trinôme au second degré. Avicenne doit être considéré comme un mathématicien qui doit son niveau scientifique à cette période glorieuse de l'histoire du pays. À l'instar de Farabi, Avicenne a complété la théorie de la musique iranienne de son temps et c'est cette musique qui a survécu en tant que tradition vivante jusqu'à nos jours. Ce grand livre de guérison est divisé en 4 parties, dont la 3e est consacrée aux mathématiques. Vous en apprendrez plus sur lui dans le programme sur la science médicale en Iran. Aboubak Karaji a écrit le livre Al-Kofi en arithmétique et il y a résolu l'arithmétique sans utiliser de figures géométriques. Aboubak Karaji a écrit le livre Al-Kofi en arithmétique et il y a résolu l'arithmétique sans utiliser de figures géométriques. Il a remplacé les lettres par des chiffres et son livre a été traduit en allemand par Hafheim. Abul Hassan Nasavi était bien connu dans les mathématiques, l'astronomie, les sciences conventionnelles de son temps. Le livre Persuasive sur le calcul hindou est l'un de ses ouvrages que Webke a analysé. Dans ce livre, les principales opérations d'addition, de soustraction, de multiplication, de division et d'extraction de racines et de cubes sont données. Dans ce livre, Nasavi a utilisé des fractions avec des dénominateurs de 10 pour obtenir les racines des nombres. Une autre figure brillante de l'histoire des mathématiques est le petit-fils de Timur, l'Orbeik. Il a régné à Samarcande et était extrêmement intéressé par la science du conseil et a publié des livres sur l'astronomie connue sous le nom des tables sultaniennes. Certes, une équipe d'astronomes l'a aidé à compiler ses ouvrages. Les tables sont constituées de 4 livres. Le premier présente les anciens calendriers, le second livre traite la partie mathématique avec l'astronomie sphérique, les tables de sinus, de tangente et de cotangente. Le troisième traite du système planétaire avec le mouvement des planètes et les distances du Soleil et de la Lune et d'astrologie. Le dernier livre présente des calculs astronomiques. Au IXe siècle, Ghiyasuddin Jamshid al-Koshi était le plus grand mathématicien islamique dans le calcul et la théorie des nombres. Il a découvert les fractions décimales et a obtenu le chiffre entier du nombre P. À Samarcande, al-Kashi a écrit son encyclopédie mathématique intitulée « Clés de l'arithmétique » et faisait partie des savants à compiler des nouvelles tables sultaniennes qui est un catalogue astronomique. Il a par ailleurs traduit le livre « La clé de l'arithmétique » en français en 1864. Au même siècle, après la mort de l'Orbeig, Alaeddin Ali Kushti, un mathématicien de Samarcande, s'est rendu à Istanbul et a emporté avec lui des écrits précieux des tables sultaniennes. À Istanbul, il a offert son livre intitulé « Mohammadiyye » au sultan ottoman Mohammad de Fatih. Dans ce livre, basé sur la clé de l'arithmétique d'Al-Kashi, les termes négatifs et positifs sont utilisés pour la première fois. La renaissance de la période safavide en Iran est la dernière étape d'une activité relativement étendue dans le domaine des mathématiques. L'ère safavide était l'apogée de la gloire des arts tels que l'architecture et les architectes et ingénieurs des écoles, des mosquées et des ponts de cette période étaient tous des mathématiciens compétents. La figure mathématique la plus célèbre du Xe siècle est Bahauddin Ommeli, qui a écrit de nombreux ouvrages mathématiques, dont la plupart sont des résumés et des écrits des travaux de maîtres antérieurs et qui offrent de nouvelles approches à d'anciens problèmes.